Bonjour, donc Emmanuel Charpentier à l'antenne, Symbiose, aujourd'hui l'accessibilité du logiciel libre, donc avec Sébastien, Christelle et Harmonie. Donc nous avons déjà discuté pas mal pour expliquer un petit peu les enjeux, qui ça touchait, essentiellement ça touche, allez, on va dire 20% de la population de manière forte, mais en fait 100% de la population sur la vie et de manière générale, ça peut toucher aussi bien parce que on va avoir un handicap fort ou léger à un moment donné, ou tout simplement parce qu'on est dans des circonstances qui font que l'accessibilité est importante. Donc on pense à la fameuse poussette, hein, je crois que c'est une règle qui permet de calculer si un trottoir est accessible. Est-ce qu'il y a, c'est quoi votre bonne règle à vous, votre méthode pour dire voilà ce site web, cet outil, il est vraiment accessible?
Alors ça va être comme... On va pas pouvoir répondre en deux mots à cette question.
Une poussette, un petit concept qui permettra à
si
quelqu'un
on prend la
de dire.
On a aussi les largeurs de trottoirs, les largeurs de murs, etc., etc. Non, sur l'accessibilité, ce qu'il faut, si on peut trouver trois ou quatre grands principes, on va avoir tout ce qui est structuration sémantique. Fait que sur un site web, on soit pas capable d'identifier les titres uniquement avec la couleur ou leur taille. Mais qu'on ait de la sémantique derrière chaque chose pour que les outils qui vont analyser les pages sachent ce qui est un titre, ce qui est un paragraphe, ce qui est une citation, quand on a une liste, quand on a un formulaire, etc., etc. Donc là, il y a plein de règles sur la bonne utilisation du code HTML pour des pages web.
C'est sémantique, il y a trop de syllabes pour moi, il faut que tu m'expliques un petit
donc
peu.
Donc sémantique, c'est pour parler par exemple d'HTML sur du web. On a un système de balises pour coder les pages. Chaque balise elle a un sens particulier. On a une balise qui s'appelle par exemple paragraphe, qui veut dire que le contenu qui est dans cette balise, c'est un paragraphe. On a une balise titre, le contenu c'est un titre ou un sous-titre, etc., etc. Donc en fait, on va pouvoir apporter un sens derrière chaque contenu qui est présent dans le site pour que par exemple une synthèse vocale puisse nous dire qu'à ce moment-là, on lit un lien, on lit un titre, on lit une image, que cette image est telle alternative, etc., etc.
Dans OpenOffice ou dans Word, si je comprends bien, c'est l'équivalent du style. C'est-à-dire, on ne va pas juste dire « je mets ce mot en gras ». Non, on va dire « ce mot-là, il est un mot important ».
Voilà, ce mot-là, c'est un mot important, il est en gras parce qu'il est important. Ou alors, on va avoir dans notre document, notre traitement texte, un 1.1 quelque chose. Bah, ça, c'est un titre. Nous, on le voit parce qu'il est peut-être en rouge et tout le reste est en bleu. Mais quelqu'un qui n'aura pas la vue, qui va le vocaliser, qui va le lire en braille, il a besoin de savoir que cette information est un titre. Donc on a de la sémantique, c'est ça, c'est apporter du sens à chaque contenu. Donc ça marche aussi bien sur du traitement de texte, sur du site web, sur tous les éléments sur lesquels on peut apporter de la sémantique.
Est-ce que c'est un petit peu plus difficile à faire ou finalement est-ce qu'on s'y retrouve, c'est plus standard, ça permet de plus facilement travailler avec d'autres sur des briques avec de la sémantique, c'est de la métadonnée.
C'est de la métadonnée, c'est
la donnée sur de la donnée.
Finalement, une fois qu'on connaît les règles et qu'on connaît chaque balise, chaque information à apporter, ça ne prend pas plus de temps. Effectivement, ça va en prendre plus si on a à refaire tout quelque chose qui est déjà construit et on doit rajouter ou modifier chaque balise, apporter de la sémantique derrière chaque élément. Mais quand on part d'une page vide, le fait de prendre en compte cet élément-là, c'est pas plus long, pas plus compliqué. Ça c'est un des principaux points. Dans d'autres points qu'on peut lister, ça va être apporter des équivalents textuels à tout ce qui n'est pas textuel par défaut, des images, des vidéos, avoir des transcripts derrière chaque vidéo pour qu'on puisse les lire quand on est sourd, pouvoir lire les contenus des images avec des petites alternatives quand on est malvoyant par exemple, ou quand on navigue en bas débit, que les images sont lentes à se charger, ben, on a au moins du texte qui permet d'être chargé avant. C'est plus la notion d'alternative, en fait, tout ce qui est média, tout ce qui est vraiment très visuel, pouvoir apporter une alternative textuelle.
Accéder par plusieurs moyens au même type d'information.
Voilà, tout à fait.
La transcription va être importante dans ce sens-là, pour tout ce qui est vidéo, son. J'espère que d'ailleurs l'émission d'aujourd'hui sera retranscrite sous format texte. Je connais quelques personnes qui font ce genre de choses. Hein. Donc on va les pousser pour qu'au moins cette émission devienne un peu plus accessible. Sans oublier, je reviens là-dessus, mais les moteurs de recherche, ils ne peuvent pas aujourd'hui en tout cas indexer et pouvoir facilement retrouver le contenu d'une émission radio son ou d'une émission de télé vidéo. Ils n'ont pas les briques qui permettent de le faire. À un moment donné, il faut pouvoir le mettre sous forme d'un texte. C'est le texte qui a le plus de valeur aujourd'hui sur Internet, sur nos outils.
Tout à fait, oui.
Et même pour tout le monde, même si on n'est ni aveugle, ni sourd, ni quoi que ce soit, quelque part on va bien, on a une information en plein milieu d'une vidéo, comment on va pouvoir retrouver le passage qui nous plaisait ? Sur une heure et demie, par exemple, ça va être un petit peu difficile, à moins de le réécouter entièrement. Alors que s'il y a une transcription, on va retrouver facilement ce passage-là. Donc c'est utile pour tout le monde, en fin de compte.
Il y a plein d'évolutions qui ont été faites sur l'accessibilité des vidéos ces dernières années. Tous les grands du web, les Google avec leur YouTube et compagnie, s'intéressent très fortement à l'accessibilité des vidéos, peut-être pas directement pour l'accessibilité même, mais plus pour les problématiques de référencement. Mais derrière, ça a un impact très fort pour les gens qui en ont besoin.
De traduction, j'ai testé il y a pas longtemps et j'ai vu d'étranges sous-titres traduits en français, mais alors à la volée. Et bon, il y a du travail.
Voilà, il y a du travail, mais voilà, maintenant. On a des technologies qui savent retranscrire du texte à la volée. Alors forcément, il faut retoucher à la main derrière. Mais le gain de temps, il est assez énorme. Aujourd'hui, par exemple, les chaînes de télé qui sont obligées de sous-titrer des vidéos, leurs émissions, le font avec une personne qui intervient derrière à la main. Donc on entend un contenu audio, on le répète. En fait, on a une reconnaissance vocale qui est travaillée avec la voix de la personne qui fait ce travail-là. Donc, elle le répète, ça l'écrit automatiquement et on le retouche à la main. Donc, au minimum, pour retranscrire 24 heures de vidéo, il faut passer 24 heures. Donc, il y a la retranscription automatique sur n'importe quelle voix, sur n'importe quel contenu audio, c'est un enjeu assez fort pour pouvoir aujourd'hui sous-titrer, transcrire des vidéos à faible coût et puis aussi pour pouvoir les référencer. Il y a des études qui ont été faites il n'y a pas très très longtemps, CNET, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site de news américain qui parle de techno, d'informatique, qui s'est mis à transcrire toutes ces vidéos. Sur l'espace de quelques mois, je crois que c'est 3-4 mois, ils ont constaté 30% d'arrivées depuis Google en plus, parce que tout leur contenu vidéo était d'un seul coup référencé et on pouvait les retrouver via les moteurs de recherche. Il y a aussi France 24 qui a mis son player haute définition qui est en ligne, qui retranscrit automatiquement les vidéos. Et on est capable aujourd'hui de faire des recherches sur les contenus de vidéos. Donc on saisit un petit texte et il va nous retrouver le texte à quel moment il apparaît dans la vidéo et nous faire commencer la vidéo à cet endroit-là. Donc toutes ces avancées qui sont à la base de la retranscription, c'est hyper important du coup pour tous les gens qui vont être sourds, malentendants, et puis c'est... On peut trouver et imaginer plein de nouvelles fonctionnalités qui sont hyper intéressantes pour tout le reste de la population.
Effectivement, j'avoue que oui. Moi, je pense à la traduction, mais l'optimisation pour les engins de recherche, Search Engine Optimization, où là, je sais que c'est un enjeu majeur de pouvoir se faire en sorte que le site que vous faites, il peut être trouvé facilement. Il va être le premier, il va arriver tout en haut de la page sur, pas seulement Google, hein, mais bon, en grande partie, quoi, oui. Effectivement, je sais que c'est considérable. Moi, j'ai un sujet qui me paraît important, c'est comment un développeur de logiciels libres, lui, il arrive à faire des choses, alors, accessibles, ergonomiques, des choses qui soient pratiques d'accès, parce que bon, on n'en ressort pas, hein. Le logiciel libre, c'est souvent fait par des barbus pour des barbus, c'est pas des barbus islamistes, hein, c'est des barbus qui peuvent être intégristes, mais c'est pas les mêmes, c'est les geeks, hein, les informaticiens d'une manière générale. Majoritairement hommes de 20 à 30, 40 ans et qui font beaucoup de choses, qui sont prolifiques, mais parfois ils font des choses pour eux-mêmes. Il faut avouer ce qui est, ils font des choses pour la petite population des geeks, c'est un pourcentage assez ridicule de la population globale, mais ils font des choses pour eux. Comment on fait pour les rendre plus accessibles au reste de la population ? Est-ce que vous avez des conseils à donner ? Est-ce que vous pouvez les orienter, les aider, quoi ?
Si déjà ils sont dans la démarche de se dire on fait plus le truc pour soi-même mais on veut le faire pour les autres, ils sont déjà dans une bonne voie, je pense. Parce que s'ils veulent juste s'occuper d'eux-mêmes, ils s'en fichent que ce soit accessible, effectivement. Après, y a peu de littérature encore, pour l'instant, sur l'accessibilité du web en français. Donc c'est un vrai problème qui pourrait être remédié bientôt, il me paraît. Mais bon, pour l'instant, il y a pas mal de choses sur Internet. Après, pour ce qui est ergonomique, il y a des livres qui existent. Il y en a un, je pense, au livre d'Amélie Boucher chez Erol sur ergonomie web qui est très bien fait, très facile à comprendre, avec plein d'exemples illustrés. Pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a rien en français, même en anglais, enfin si, il y a quelque chose, anglais, mais même en anglais, c'est pas terrible, sur l'accessibilité du web pour aider ces développeurs pour l'instant.
Alors, il y a des règles d'ergonomie, on va dire. Est-ce que ces règles d'ergonomie, je sais que, je sais plus d'ailleurs qui les avait produits, peut-être Apple ou des gens de ce type-là, des règles d'ergonomie pour bien faire des interfaces, pour faire des interfaces. Est-ce que ça s'applique? Est-ce que ce sont des choses qui sont pertinentes dans ce métier?
Ben, l'accessibilité, moi j'ai tendance à penser, je sais pas, une règle, c'est mon avis, mais que c'est une partie en fait un peu de l'ergonomie, dans le sens où l'ergonomie c'est penser son site pour ses utilisateurs, parce qu'on va pas le, enfin on fait un site ou un logiciel pour un utilisateur, un public en particulier, et parmi ce public il y en a certains qui ont plusieurs caractéristiques, il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont vieux, il y en a qui sont en situation de handicap. Voilà, l'accessibilité c'est une partie. Donc, il y a des règles spécifiques. Au niveau technique, c'est plus technique. Les règles d'ergonomie,
il y en a
plein des règles d'ergonomie. Ça dépend quelle école.
Je pense aux HIG qui sont dans le logiciel libre. Human Interfaces Guidelines, les guides des interfaces humaines.
Et bah là, si on doit prendre l'équivalent pour l'accessibilité, c'est les WCAG dont je parlais tout à l'heure. C'est les Web Content Accessibility Guidelines. Donc où là, on peut vraiment se reporter. Quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose de bien, il va sur le site AccessiWeb, le référentiel AccessiWeb. Il y a 130 critères. Donc voilà, c'est hop, une liste. Et il y a à chaque fois des tests pour vérifier est-ce qu'on respecte ce critère ou pas. Donc c'est quand même quelque chose de très pratique, alors qui est technique et qui est pour les développeurs. Hein,
mais c'est à eux aussi qu'on parle.
Mais bien sûr, c'est important. Et donc il y a vraiment, c'est assez pédagogique, je trouve. Il va y avoir une mise à jour du guide AccessiWeb sur lequel... c'est en cours d'être travaillé puisque les normes sont nouvelles. Donc il y a AccessiWeb 2, avant il y avait AccessiWeb 1.1, mais du coup ils sont obligés de tout remettre à jour. Donc le guide n'est pas encore à jour, mais il y aura plein d'exemples techniques de code, comment faire, etc. Pour l'instant, il y a déjà le référentiel AccessiWeb sur lequel tout le monde peut aller voir, aller lire. Il y a une explication, c'est pédagogique. Il y a un glossaire qui est associé, qui explique aussi les termes un peu techniques. Donc
il n'est pas forcément pour les gros développeurs qui ont fait des études là-dessus. Parce qu'il y a par exemple mettre une alternative texte, des choses comme ça. Il y a des choses très simples que tout le monde peut faire.
Oui, les producteurs de contenu, quelqu'un qui fait un wiki par exemple.
Quelqu'un qui a juste un petit bouquin HTML dans son coin, il peut déjà apprendre 2-3 choses en fin de compte. C'est prendre conscience de ce qu'il y a à faire, mettre un contenu. Bien structuré, séparer le contenu du contenant, des choses, en fin de compte, des petites bases simples, comme quand on fait on veut faire un beau texte, on différencie le style du contenu,
le fond et la forme. Hein. Voilà. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur
Word. Et en fin de compte, ça fait partie de l'accessiWeb. Moi, c'est pas du tout, je suis pas du tout professionnelle là-dedans, et je l'ai lu et il y a des trucs qui sont tout simples.
Alors, quand on parle de référentiel comme ça, il y a aussi un référentiel pour les documents bureautiques. Donc là, qui peut être plus pour les contributeurs aussi, ou comment rédiger, qui sont aussi édités par AccessiWeb, où ils ont extrait, en fait, du référentiel des 130 critères, les critères pertinents pour les rédacteurs. Et donc, il y a des choses comme ça. Pour l'instant, c'est vraiment, quelqu'un qui se pose la question, comment je fais pour en savoir plus ou pour voir, moi, mon conseil, ce serait vraiment d'aller là.
Ouais, pour synthétiser, il y a effectivement le référentiel AccessiWeb. C'est très orienté web. Hein. C'est vraiment pour les gens qui font des sites, des intranets, des choses comme ça, du web. AccessiWeb publie aussi du coup un référentiel sur les documents bureautiques. Ils ont aussi fait des guides qui sont comment on fait un document sous OpenOffice accessible et un document sous Microsoft Word accessible.
Ils l'ont fait sous OpenOffice,
oui, tout à fait. Après, pour tout ce qui est logiciel, effectivement, on est beaucoup moins documenté, que ce soit en France ou à l'étranger. Pour ceux qui n'ont pas peur de lire des choses qui sont difficiles à lire, les Américains ont fait un gros travail sur la section 508. La section 508, c'est un document qui est issu de la loi américaine pour l'accessibilité numérique, dans lequel on retrouve plein de critères sur l'accessibilité ça va du web au logiciel en passant par tout ce qui est matériel aussi. Le fait qu'on ait un petit, je sais pas si vous avez remarqué, mais un petit point en relief sur la touche 5 de son téléphone, ça c'est issu de la section 508.
Ah, je pensais que c'était pour moi, pour que j'aille plus vite quand je tape sur mon clavier.
Bah, c'est pour pouvoir identifier quand on n'a pas la vue, la touche numéro 5 et savoir où est le 5. Et donc du coup, où sont les 8 autres numéros qui sont normalement autour.
Ça permet de replacer, hein, donc pour ceux qui nous écoutent éventuellement, vous pouvez replacer vos doigts plus facilement sur un clavier en repérant sous l'index une petite excroissance,
tout
indispensable.
Ouais. Ça c'est dans la section 508, il y a des choses aussi pour le logiciel dans la section 508 qu'on peut lire. On peut aussi s'inspirer des référentiels web quand on fait du logiciel, hein, quand on nous dit que sur le web tout doit fonctionner avec le clavier sans la souris. Bah, sur un logiciel c'est aussi la même chose, il faut qu'on puisse l'utiliser entièrement au clavier.
Les grands principes, c'est les mêmes.
Enfin, voilà.
C'est pour ça qu'ils peuvent vraiment, même si on développe du logiciel, les grands principes sont les mêmes. C'est, il faut que ce soit compréhensible, que ce soit que les personnes puissent interagir avec, accessible au clavier, à la souris, qu'il y ait une alternative textuelle aux éléments non textuels.
Oui, là donc, on y revient. Oui, il faut vraiment avoir à chaque fois des.
Voilà,
des
du moment qu'il y a ces. Voilà, c'est.
Et qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui. Peut-être soit même en situation de handicap, hein, je suppose que c'est un peu du coup politiquement correct, j'ai l'impression des fois, non, enfin quelqu'un d'handicapé, temporairement ou de manière permanente, et à côté de ça, quelqu'un qui connaîtrait dans son entourage, qui a un ami, quelqu'un de sa famille, qui voudrait l'aider, lui permettre d'avoir des outils qui soient plus aisés à manipuler. Donc j'ai cru comprendre, il y avait NVDA, Orca, est-ce que c'est facile d'installer une distribution, une Ubuntu, hein, elle vient de sortir il y a un jour, deux jours, est-ce que c'est aisé à installer, à mettre en place pour quelqu'un qui est handicapé?
Justement, par exemple, pour Ubuntu, maintenant, on peut faire avec une tablette Braille aussi. Dès le début, on nous propose des aides pour l'accessibilité, des lecteurs d'écran. On peut choisir aussi ça, de dire ben, j'ai besoin d'un lecteur d'écran, de pouvoir faire l'installation un petit peu tout seul. C'est de plus en plus pensé, pas encore assez, mais de plus en plus pensé. Après, il y a. Bah, sur le site de l'April, sur la partie accessibilité, où on essaye de répertorier des logiciels libres pour l'accessibilité, des aides. Après, bah, on peut toujours poser la question aussi. Est-ce que ça existe?
J'en avais noté, je me doutais de la question à un moment ou à un autre. Donc j'en ai noté quatre, un peu. Donc on a parlé d'NVDA ou d'Orca, qui sont des logiciels de lecture d'écran. Donc, ils vocalisent ce qu'il y a à l'écran.
Donc là, c'est clairement pour les aveugles,
voilà,
j'imagine.
Aveugles ou malvoyants. Il y a un logiciel qui s'appelle Donner la parole, qui est un logiciel libre aussi, et qui permet de permettre le contact aussi. Donc, qui va vocaliser, donc pour quelqu'un qui ne peut pas parler. Donc avec différents types de claviers, en LSF, qui peut donc en langue des signes française.
Ah oui.
Avec différentes touches. Il y a un autre logiciel qui s'appelle Chewing Word, qui est un logiciel français pourtant.
Chewing Word qu'on traduirait les mots à mâcher.
Le mâcheur de mots. qui est édité. Par Aristide Grange et qui est en fait un logiciel qui a un clavier numérique et qui se réorganise à chaque fois qui intuitivement va deviner le mot d'après, donc pour faciliter la saisie et pour aider à apprendre la lecture aussi, ou ce genre de choses aux personnes dyslexiques dont on n'a pas parlé mais qui peut être un vrai handicap. Et puis pour le dernier, histoire d'avoir le panorama, il y a aussi pour le handicap moteur un logiciel qui est très utilisé dans l'éducation, Tout en clic, qui permet en fait à des élèves qui peuvent pas utiliser le stylo ou le clavier comme leurs camarades de pouvoir tout faire avec la souris.
Et c'est un petit peu à ça que je pensais aussi quand je pensais au téléphone portable, parce que j'ai l'impression que ce concept de tout en clic est clairement orienté pour pouvoir l'utiliser au doigt, avec une petite touche, avec...
Tout en clic, on peut faire des découpages, des coloriages, tout avec une souris. Il y avait même le compas, il y a une règle, on peut mesurer, tout avec une souris, c'est...
D'accord, là, ça va voilà. être très bien pour quelqu'un qui aura quelques doigts, un peu de... Il faut la main quand même, j'imagine.
Pour le handicap moteur, clairement. Enfin, donc, ça veut dire pas écrire normalement, mais qui peut servir d'une souris. Je connais quelqu'un, par exemple, qui est tétraplégique, qui peut servir que d'un doigt et qui peut faire plein de choses quand même.
Un homme comme Hawkins, par exemple, il utilise par ce genre d'outils, j'imagine.
Bon, c'est un logiciel d'éducation pour les enfants, donc je ne suis pas sûre qu'il l'utilise, mais c'est le principe.
C'est le principe. J'ai l'impression qu'on lui a développé ses propres outils pour lui. Donc, effectivement, j'espère que certaines personnes vont pouvoir se mettre ensemble et, à la manière d'autres projets, contribuer, améliorer ces choses-là. Dernière question, sous quelle licence voudriez-vous que cette émission et que vos propos soient diffusés ? C'est un vieux sujet que j'ai avec Luc, qui n'a pas délimité exactement les termes de la licence, c'est-à-dire sous quelle forme cette émission peut être reprise par d'autres, rediffusée, éventuellement modifiée.
Bah, nous, notre choix est clair, je pense, autour de la table, le plus librement possible. Donc, une Creative Commons by SA ou Art Libre. Voilà. Donc, ou même GPL.
Domaine public, ouais. Sinon ? Est-ce que le domaine public...
Oui. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour que ce soit...
On est tous assez d'accord. Ouais. Ouais.
Maintenant, dernière question. Luc ?
C'est un piège.
Voilà. Sachant bien sûr que la musique est sous Creative Commons NCSA, donc...
On ne peut plus libre, pour le coup.
Voilà.
NC, non ?
NC, bah là...
Non commercial. La musique de David Temmix est sous une licence donc non commerciale. On a pas le droit de faire une utilisation commerciale de la musique.
Donc c'est pas totalement...
On a le droit de la modifier.
Non, mais effectivement, c'est un vieux débat. Le côté diffuser quelque chose et penser que quelqu'un d'autre va en profiter commercialement est un peu compliqué.
Bien sûr.
Moi, j'ai tendance à dire que c'est le mot commerce, faire commerce avec autrui qui est important, mais bon...
Alors, ce sont de vieux débats. Si on se lance là-dedans, je pense que champ contre champ ne va pas être très content.
Non, donc effectivement, Harmonie, Sébastien, Christelle...
Tout à fait d'accord.
On se reverra bientôt, j'espère.
Si je peux juste dire que tous ceux qui seraient intéressés par le sujet peuvent rejoindre le groupe de travail Accessibilité Logiciel Libre de l'April. C'est un groupe de travail de l'April, mais ouvert aussi aux non-membres de l'April. C'est pas un groupe de travail technique, donc on peut parler de tous ces sujets. Et donc, d'ailleurs, comme le disait Christelle, qui n'est pas du tout technicienne, participe très activement dans le groupe. Et donc pour ça, il suffit de rejoindre la liste de discussion accessibilité@april.org et on aura bientôt un portail libre-accessible.org. Voilà.
D'accord, très bien. Et puis on vous reverra donc Ubuntu Party, Rencontre mondiale du logiciel libre, je serai volontiers.
Il y aura plein de démonstrations.
Oui, exactement. Ce sera important. Donc,
très bien. Bah, merci beaucoup.
Merci
à vous. Oui.
Grand plaisir et on se retrouve le mois prochain.